Est-ce que ça enregistre?
C'est quoi ton terrain d'écriture actuel?
Il est très vaste parce que ça peut être un peu n'importe quel terrain. Là, je te parle d'un point de vue même géographique.
C'est de projet, je pense, hybride. C'est une sorte d'ethnographie que j'ai
fait. Ça m'a permis de prendre beaucoup de liberté par rapport aux formes littéraires que je connaissais.
Je ris aussi de l'autorité, du savoir.
Aujourd'hui, je vous présente ma discussion avec Roselyne Lambert. Roselyne est une poète anthropologue, autrice de deux recueils de poésie, tous les deux publiés aux éditions Poètes de Brousse, deux recueils qui m'ont beaucoup intéressée parce que leur forme est atypique. Le premier s'intitule « Clinique » et a été publié en 2016, et le deuxième s'intitule « Les couleurs accidentelles » en 2018. Roselyne a aussi une maîtrise et un doctorat en anthropologie. Sa thèse de doctorat m'a particulièrement intriguée quand on s'est rencontrés pour la première fois. J'ai été happée par la singularité de sa démarche. Pour son travail en anthropologie, Roselyne m'a expliqué qu'elle menait des entretiens avec des gens qui souffrent d'agoraphobie et qu'elle s'intéressait tout particulièrement aux images et aux métaphores que les gens utilisent pour parler de leurs conditions. Pendant la discussion que vous allez écouter, on a parlé de son écriture, bien évidemment. On a parlé de son rapport au voyage. On a parlé de son amitié très grande pour les moutons. Et on a parlé des artistes qui l'inspirent. Notre discussion a lieu il y a un moment, en fait à l'hiver dernier, pendant que Roselyne était en résidence en Finlande. La première chose que je lui ai demandé de faire pour nous, c'est de nous expliquer tous les déplacements qu'elle a fait dans les mois qui ont précédé sa résidence en Finlande parce qu'elle s'était énormément déplacée.
Bien, c'est une grande question parce que j'ai tellement bougé depuis juin dernier. Donc, je suis partie en juin, je suis partie au Monténégro et je voulais aller voir un endroit au Monténégro qui s'appelle le Lac Noir parce que je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle le Lac Noir que j'ai, en fait, c'est mon titre de travail pour l'instant. Puis ça part de l'idée que ma grand-mère est née à Black Lake en 1920, donc au Québec, avec un nom de ville qui est un lac noir, mais en anglais. Puis c'est ça, donc j'ai eu envie d'aller de voir ce lac noir-là, et puis j'ai passé deux semaines à me promener autour, c'est très haut en altitude, c'est dans un petit village qui s'appelle Zabliak, et... Donc, j'étais à peu près à 2300 mètres d'altitude dans des montagnes. Je me suis promenée, j'ai fait beaucoup de randonnées, des randonnées vraiment intenses. Là, donc, j'étais vraiment dans l'espèce de... J'éprouvais mon corps là, à grimper des montagnes. Puis, j'écrivais sur ce lac noir-là dans lequel je me baignais tous les jours. Donc, et c'est pourquoi il est noir, c'est parce que les montagnes font de l'ombre, une ombre noire sur le lac. Donc, c'est la métaphore qu'ils ont trouvée.
Puis comment tu l'as découvert, ce lac-là, au Monténégro?
En fait, je l'avais découvert avant. Là, j'avais fait mes recherches. Là, j'avais comme beaucoup cherché des lacs noirs dans le monde. Et puis, je suis tombée sur celui-là. Puis ensuite, j'ai fait un périple. Je voulais voir d'autres lacs. Donc, je suis allée voir un autre lac qui s'appelle... le lac de Skodar, qui est en fait le plus grand lac d'Europe, qui est à la frontière du Monténégro, mais aussi de l'Albanie. Et puis là, je voulais juste le voir, donc je suis allée là-bas, je me suis promenée autour de ce lac-là. Je n'ai pas fait le tour parce qu'il est vraiment très grand. Et puis après, je suis allée en Macédoine. Là, on est dans les Balkans. Tous ces pays-là sont très collés. Là, c'est une très petite région. Puis c'est des petites distances, mais que les routes et le transport sont tellement chaotiques que ça prend... c'est vraiment l'impression d'être dans une espèce de montagne russe quand on fait des distances entre ces différents lacs-là. Et puis là, je suis allée au lac Horide. Il y a un lac, en fait, qui serait le plus ancien lac d'Europe, peut-être le plus vieux lac du monde. On n'arrive pas à les dater exactement. Et qui est une petite ville aride, un peu touristique à cause de ce lac-là. Puis je suis restée là et puis j'ai comme installé mon atelier d'écriture là, dans une chambre. Puis je voulais écrire sur ce lac-là. Donc ça, c'était mon périple du début de l'été Puis ensuite, j'avais une résidence en Finlande, à Lapua, donc dans le centre de la Finlande, tout le mois d'août. Puis ça a été un séjour vraiment là, extraordinaire d'être en Finlande l'été, de pouvoir se baigner tous les jours dans des lacs, puis de voir ce pays-là. Ben, en fait, l'été ressemble beaucoup à chez nous, c'est un peu plus frais, mais c'est... et c'est ça, et j'étais dans une résidence vraiment... intéressante, là, où il y avait un immense centre culturel au centre de la ville. Tu sais, toute la ville est construite autour du centre culturel où il y a deux musées, une salle de spectacle, des tonnes d'ateliers d'artistes, une espèce d'énorme atelier d'artisans qui font du tissage, une bibliothèque, en tout cas, c'est énorme. Et ils ont une résidence d'artistes, donc j'étais dans cette résidence-là. Donc,
wow.
Vraiment, un grand privilège d'être là. Et puis, au mois de septembre, c'est ça, j'ai une année vraiment rocambolesque, là. Au mois de septembre, j'avais une autre résidence en Lituanie. Et là, c'était un projet vraiment particulier. Pendant un mois, c'était une résidence sur une ferme de moutons. Donc, j'étais en charge d'un troupeau de 40 moutons pendant un mois. Mais c'était une expérience fabuleuse parce que c'est des artistes qui ont parti ce projet-là. Puis leur idée, c'est vraiment de penser l'art de nouvelles manières, en connexion avec la nature. Puis aussi, ce que j'ai beaucoup discuté là-bas avec eux, mais aussi réfléchi, c'est de penser l'art non plus en fonction continuellement d'un résultat, mais vraiment en se concentrant sur le processus de création. Puis ça m'a fait vraiment du bien parce que c'est tous des artistes qui sont là, plusieurs sont des artistes internationaux, tu sais, qui ont fait la Biennale de Venise, mais tout le monde est brûlé. Tout le monde a fait des burn-out dans les dernières années parce qu'il y a une telle pression de produire quand on est artiste. Il y a vraiment... puis on arrive qu'on... C'est ça, il y a un épuisement généralisé. Puis ces gens-là se sont dit, on part vivre dans le bois, on veut avoir des moutons et on a aussi un troupeau de moutons qui est non productif, c'est-à-dire que c'est des moutons qui ne servent à rien. Donc, on ne les élève pas pour la viande, on ne les élève pas pour leur laine. C'est des moutons qui vivent leur vie. Donc, dans les pâturages.
C'est tellement beau!
Oui, c'est ça, c'était vraiment magnifique. Donc, en fait, j'ai passé des heures et des heures à marcher avec les moutons. C'était extrêmement exigeant parce que c'est une responsabilité, là, quand on est berger, il faut s'occuper d'eux. Il y avait un des moutons qui est né le jour où je suis arrivée. Donc, pendant 30 jours, j'ai vu un mouton grandir, apprendre... à marcher en 2 jours, là, ils marchent super rapidement, les moutons. Mais tu sais, voir tout le développement d'un animal comme ça là, qui naît. Puis on avait un autre mouton. On était deux artistes, en fait, sur la ferme. Donc, on pouvait alterner nos journées de marche avec les moutons. Donc, c'est ça. Donc ça a été un projet vraiment particulier qui a mené à une exposition. J'en parlerai peut-être un peu plus tard.
Attends, juste savoir, est-ce que le bébé mouton, il y avait un nom?
écoute, j'ai un blanc. Oui, mon ami artiste qui était là, mais c'était un nom en néerlandais.
Ah ouais, c'est...
Je l'ai perdu.
C'est correct.
Et c'est ça, donc ensuite, il fallait que je sorte de l'espace Schengen parce que, tu sais, je ne peux pas être en Europe plus que 3 mois. Fait que je suis retournée dans les Balkans. Puis là, je suis allée en Albanie, qui est un pays que j'aime beaucoup. Je suis allée plusieurs fois en voyage là-bas. J'ai passé beaucoup de temps à Tirana où, en fait, j'avais beaucoup de travail en retard. Donc, je me suis comme enfermée dans un appartement pour écrire pendant... 3 semaines, puis ensuite je suis allée marcher en montagne en Albanie, dans le sud de l'Albanie, il y a ce qu'on appelle les Alpes albanaises, donc je suis allée faire de la randonnée, puis ensuite je suis partie aux îles Shetland sur un coup de tête, et là encore j'ai eu une connexion intense avec des moutons. Donc, je me suis louée une maison dans le nord des îles Shetland. En fait, je ne savais pas exactement où je louais la maison, je dois avouer. Puis je me suis rendu compte en arrivant que j'étais tellement isolée. Donc, j'étais vraiment dans l'île... les îles Shetland, c'est plusieurs îles. Donc, j'étais dans l'île la plus au nord des Shetland, mais dans le village le plus au nord. Et ma maison était en dehors du village. Donc, tu sais, j'étais vraiment, vraiment loin. Mais c'est des paysages d'une beauté époustouflante. C'est des îles où il n'y a presque pas d'arbres, donc on voit à l'horizon. Puis tu sais, j'étais sur une bande de terre d'environ 10 km de large avec, tu sais, la mer des deux côtés, là. Fait que c'est extrêmement venteux. On a eu une grosse tempête de neige durant mon séjour là-bas. On a manqué d'électricité. C'était comme une espèce de... J'avais l'impression là, de vraiment éprouver mon corps avec les éléments. Là, moi, j'adore ça. Donc, voilà. Puis là, il y a beaucoup de moutons, il y a beaucoup d'espèces de différentes lignées de moutons avec une laine exceptionnelle. Donc, je me suis promenée, j'ai rencontré des fermiers. Puis dans mon rang, il y avait un vieux monsieur qui avait 14 moutons pour le plaisir. Puis il y a un de ces moutons-là que je suis tombée en amour. Là. J'allais le voir tous les jours, on se parlait. Puis après, ben, je suis revenue en Finlande pour la résidence ici, à Rauma, qui est une petite ville sur le bord du golfe de Botnie. Donc, le golfe de Botnie, c'est la mer entre la Suède et la Finlande. Puis, c'est une ville vraiment particulière. C'est une petite ville qui est... En fait, tout le centre-ville a été classé patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que les résidents de la ville ont décidé de conserver et de restaurer toutes les maisons, en fait, du 18e siècle en bois qui se trouvent dans le centre. Donc, il y a 600 maisons en bois qui ont toutes été rénovées et peinturées dans des couleurs pastels. C'est absolument magnifique, surtout l'hiver. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression de vivre dans une carte de Noël. Là. Et c'est ça. Et c'est aussi une communauté qui est vraiment axée sur tout ce qui est artistique. Vraiment, il y a une vie culturelle ici vraiment intense. Juste pour donner un exemple, hier, il y avait l'ouverture d'une nouvelle exposition au musée d'art de Rauma, là, le musée d'art de la ville. Puis au vernissage, il devait y avoir 400 personnes. Là, puis c'est toute la ville se déplace pour aller voir les expositions. Donc, puis c'est ça, en fait, moi, mais quand même, j'avais quand même envie de te dire qu'est-ce qui, moi, constitue mon atelier, même si je me déplace.
Oui, parce que tu dois le reconstituer à chaque fois, tu sais, il doit se défaire et se refaire. Là.
C'est ça, puis en fait, tu sais, j'aime ça voyager très léger, puis j'aime ça écrire dans le mouvement, mais j'ai réalisé depuis quelques années que j'avais quand même besoin de me créer une sorte d'atelier nomade, puis que ça m'aidait à garder un peu le fil de mon processus d'écriture. Et puis c'est drôle parce que en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais besoin d'objets autour de moi. Puis en fait, j'appelle ça mon petit théâtre. Puis j'ai pris l'idée de Élise Turcotte qui a écrit là, ce magnifique livre qui s'appelle Autobiographie de l'esprit. Je ne me souviens pas exactement si c'est dans ce livre-là ou dans autre chose qu'elle a écrit, mais en tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Puis elle explique dans ce livre-là l'importance des objets quand elle écrit. Puis moi, ça m'a vraiment frappée. J'ai réalisé à ce moment-là que j'essayais de ne pas avoir d'objet, en fait, quand j'écrivais. Puis là, soudainement, j'ai réalisé que non, c'est le contraire, ça m'aide d'avoir des objets autour de moi. Donc, les objets autour de moi, ils changent beaucoup, puis ils évoluent, puis tu sais, moi, je me transforme continuellement, puis je bouge et tout ça. Donc, ben, je peux peut-être te présenter les objets que maintenant j'ai sur mon atelier. Oui. Donc là, je suis dans dans ma maison jaune, tu sais, qui est une de ces maisons patrimoine de l'UNESCO, donc tout en bois, en fait, j'ai une chambre qui ressemble un peu à un grenier au deuxième étage d'une maison, puis j'ai une grande table en bois, Et j'ai plusieurs choses, là. J'ai, en fait, un des objets que j'ai maintenant avec lequel je travaille, c'est un oiseau en céramique que j'ai trouvé au marché aux puces, qui est brun foncé avec des picots bleus, puis que je trouve vraiment beau. Puis j'aime beaucoup avoir des bibelots d'oiseaux. Puis, tu sais, dans mes livres, il y a beaucoup d'oiseaux. J'ai des pierres, et ça, c'est assez particulier. Je me suis fait donner des cailloux par une femme au Shetland qui habitait dans mon rang, puis qui était une femme, en fait, complètement exclue du village. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un dans le village, il me parlait d'elle en me disant de me méfier d'elle, en me disant qu'elle avait un problème mental, etc. Mais cette femme était absolument extraordinaire. Elle venait me voir presque chaque jour pour me porter des pierres. Et j'avoue que c'est la personne aux îles avec qui j'ai eu les conversations les plus profondes et intéressantes. On a parlé de mille sujets de poésie, d'art, de création, de rapport avec la nature et tout ça. Puis, elle m'apportait constamment des cailloux qu'elle trouvait autour. Puis, ben, j'en ai gardé. Puis, 2 semaines plus tard, j'étais à Liverpool et il y a une femme qui m'a donné des cristaux. Donc, en me disant qu'il fallait que je fasse attention à moi, puis que mes chakras étaient bloqués, tout ça. Bon, toute une idéologie de nouvel âge que moi, je suis pas là-dedans, mais c'était aussi une femme vraiment qui était dans la bienveillance envers moi, puis qui était aussi une femme marginale. Donc, pour moi, c'est comme important d'avoir ces cailloux-là autour de moi quand j'écris pour me souvenir que, c'est les femmes, on est souvent exclues ou vues ou perçues de manière marginale, puis j'en suis, là, t'sais, ma vie n'est pas une vie ordinaire. Mais je pense qu'il faut qu'on soit solidaires entre nous et qu'on se donne de la bienveillance, puis qu'on se donne des cailloux pour continuer notre chemin.
C'est
Donc,
tellement beau comme image.
oui, c'est ça, mais c'est drôle parce que c'est comme vraiment des hasards de voyage. Puis les 2 fois, c'était des cailloux, donc moi, ça m'a frappée. Et puis cette semaine, j'ai eu un cadeau. C'est un morceau de laine. C'est une femme que j'ai rencontrée ici, qui est une artiste textile, qui a des moutons à la maison. Puis elle m'a amené un morceau de son mouton qui sent très, très bon. Donc, puis qui a encore un peu de foin dedans. Donc, je l'ai mis sur ma table. Puis j'ai des livres aussi, hein. J'ai beaucoup de livres autour de moi. Présentement, les livres que j'ai un livre en fait, que j'ai trouvé en Angleterre, qui est un livre de poésie. Puis j'étais dans une grande librairie, là, tu sais, Waterstone, là, la grande chaîne britannique. Puis je suis allée dans la section poésie, puis j'ai vu ce livre-là et il m'a happée, comme il est orange flash. Puis le titre, c'est un recueil de poésie, le titre, c'est The Sun is Open. Et j'ai trouvé le titre incroyable, fait que je me suis comme garrochée sur ce livre-là. Et j'ai commencé, ben, je l'ai regardé et tout ça, donc c'est un livre, je vais aller chercher, j'en ai tiré. Donc c'est un livre de Gail McConnell. Et puis, c'est en fait une femme queer de Belfast qui écrit un livre sur la mémoire, puis les traumas. Et c'est extraordinaire. Et puis, c'est un livre aussi, moi, j'aime beaucoup la poésie graphique. Donc, c'est un livre qui joue énormément avec la forme.
Oui, on
Donc,
peut voir le paragraphe et comme ben là, il y a un jeu sur la transparence de la page, je pense. Puis
ouais.
c'est ça, l'idée, c'est qu'on voit le paragraphe de l'autre côté, mais il y a juste certains mots qui apparaissent de l'autre côté de la page. C'est très beau.
C'est ça, puis il y a beaucoup de jeux aussi avec du gris. Puis, tu sais, moi, j'ai joué beaucoup dans mon dernier livre avec les couleurs. Mais je n'avais pas pensé jouer avec du gris. Puis là, c'est ce que je suis en train d'explorer parce qu'à cause de ces livres-là, ça m'a vraiment inspirée. Puis elle joue beaucoup avec les majuscules aussi. Vraiment magnifique livre. Puis c'est la... En fait, l'intro est de Maggie Nelson là, pour vous donner une idée dans quel courant ça se situe. Puis c'est la maison d'édition Penned in the Margins, qui est une maison d'édition britannique là, qui fait beaucoup de poésie expérimentale, tout ça. Mais c'est une de mes maisons que j'aime beaucoup. Donc, j'ai ce livre-là. Et puis, j'ai trouvé au marché aux puces à Aberdeen un petit livre d'observation des oiseaux. Puis, j'aime ça collectionner, en fait, les livres, les petites encyclopédies d'oiseaux où il y a des illustrations, des dessins. Parce que je trouve que les dessins d'oiseaux un peu vieillots m'inspirent beaucoup. Puis, j'aime ça regarder les noms d'oiseaux, puis tout ça. Donc là, c'est ce qu'il y a autour de moi. J'ai de la laine aussi. Puis d'habitude, j'essaie d'avoir des plantes ou des fleurs. Mais quand je voyage, c'est un peu compliqué. Puis j'ai essayé pendant un bout de temps de transporter une plante en voyage. Je voulais comme essayer voir si c'était possible là, de déplacer une plante avec moi, mais c'est. Ça demande quand même beaucoup de soins. Fait que là, présentement, j'ai pas vraiment de végétal.
J'avais pas prévu de te parler de ça tout de suite, mais je trouve ça intéressant ta façon d'aborder la création. Puis là, tu sais, j'ai un million de questions sur la façon dont peut-être ces objets-là vivent, meurent, renaissent, parce que bien sûr, quand on voyage, on peut pas accumuler à l'infini. Même si c'est une des choses que moi j'aime de, tu sais, de me déplacer, là, ça force un tri parce que ben y a un espace limité. Mais en fait, la question qui me vient, c'est moins sur la mort et la vie, la transformation des objets que tu accumules, mais c'est le rapport entre la vie intérieure puis la vie extérieure. Parce que, bon, là, je t'ai lu comme en condensé dans les derniers temps, puis je t'écoute parler, puis t'sais, c'est le même rapport au monde dans ta façon de parler que dans tes livres, puis il y a comme il y a une singularité dans tes livres. Dans les attentes qu'il y a par rapport au monde extérieur, comme si le monde extérieur était un répertoire de métaphores pour, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une attente par rapport au monde extérieur dans tes livres qui est comme vitale, tu sais. C'est, on te lit, puis c'est comme si la locutrice des poèmes ou des textes, parce que c'est très hybride ta production, là, elle attendait que le monde extérieur fournisse des images pour la décrire ou pour décrire ses sensations, pour expliquer sa vie. Puis je pense que j'ai jamais vu ça de cette façon-là chez quelqu'un d'autre.
Mais c'est intéressant parce que tu le formules avec le mot attente. Et moi, j'ai aucune attente. C'est là. Tu sais, il n'y a pas. Ça m'est donné, ça m'est offert. Et c'est comme si je voyais ça comme si j'allais cueillir.
Peut-être que attente est mal choisie, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare qu'on fait confiance à ce point-là au monde extérieur pour nous décrire, au sens où on a des attentes dans la vie par rapport à qui on est, qu'est-ce qu'on veut comme relation. Et je pense que ce qui est impressionnant dans les livres, puis en fait, je m'attendais peut-être pas à trouver un écho aussi fort dans ce que tu disais, c'est que vraiment, il y a une sorte de recherche ou de confiance envers le monde extérieur, les paysages, même les descriptions du monde. Tu sais, je pense qu'il y a un passage, il me semble que c'est dans les couleurs accidentelles, où tu dis, tu sais, un paysage, c'est fait de feuilles et de sable et de pierre et ça va pas fournir un texte, tu sais, c'est pas une métaphore, mais c'est pas vrai, tu sais, dans tes livres, on a l'impression que le paysage va fournir la matière qui va nous permettre de nous comprendre nous-mêmes, de nous identifier, de saisir aussi notre parcours dans le monde. Donc, c'est pour ça que je dis des attentes, tu sais, c'est moins tourné envers, c'est pas tourné vers l'intérieur ou vers les autres, c'est comme le monde extérieur va être la source de ça.
Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça. Puis tu vois, c'est ça que j'explore, c'est cette connexion-là. Tu sais, j'essaie de trouver la connexion la plus intime entre moi et le monde. Puis c'est ça que j'essaie d'exprimer. Puis, tu sais, quand je te parle que je vais en résidence avec les moutons, c'est ce que je cherche quand je suis avec des moutons, c'est cette connexion animale, tu sais, d'un humain avec un animal. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Au-delà des mots, tu sais, c'est qu'on n'est plus dans les mots, là. On est dans quelque chose de profondément. C'est ça qui est un corps à corps avec de la peau et de la laine. Puis qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? Donc, puis toutes les émotions que ça fait émerger, tu sais, moi, c'est ce que j'aime décrire aussi. C'est tout le paysage émotionnel de cette rencontre-là. Puis effectivement, cette rencontre-là, elle peut être avec tout ce que j'absorbe du monde, en fait, tout ce que j'absorbe du paysage. Ouais.
Mais il y a aussi, comme tu dis, tu as un parcours un peu singulier. Il y a quelque chose de très fort là, au fait d'éprouver à ce point-là le monde. Comme je disais, peut-être le mot confiance est plus adéquat que attente. Mais puis peut-être que les gens savent moins ça parce que je pense que dans la communauté littéraire, tu es connue comme poète, mais tu es aussi anthropologue. Puis je t'écoute parler du rapport aux moutons puis aux animaux. Puis tu as toute une réflexion aussi qui vient quand même de l'anthropologie, de l'ethnographie. Puis bon, on le sent aussi dans tes recherches comme anthropologue percolent dans Les couleurs accidentelles, donc ton dernier recueil. Puis moi, j'ai lu ta thèse qui porte sur l'agoraphobie, mais qui est aussi une démarche de recherche-création. Et donc, quand tu es en résidence comme ça, en tant que poète, est-ce que tu gardes l'espèce de recherche et création ou là, tu es juste dans la poésie? T'sais, est-ce que ce fil-là entre chercheuse et poète, tu l'entretiens encore?
Oui, c'est une bonne question. En fait, tu vois, quand j'ai décidé de retourner faire une thèse, parce que j'avais fait ma maîtrise en anthropologie, puis c'est après ça que j'ai commencé à écrire de la poésie, puis j'ai décidé de retourner faire un doctorat pour essayer que ma vie soit moins schizophrénique, c'est-à-dire que de ne pas sentir que j'ai deux carrières, mais essayer de trouver une manière, c'est dans ma méthodologie de recherche et de création, de faire en sorte que les deux manière d'écrire puisse converger. Donc, c'était vraiment un projet très expérimental. Mais, tu sais, présentement, comme cette année, parce que j'ai fini, bon, toute la thèse, le dépôt, tout ça, il y a un an, puis là, j'ai vraiment eu envie de uniquement travailler sur de la poésie. Juste par, disons, besoin, à part, je sais pas, un peu, avoir le sentiment que je suis un peu épuisée de la recherche parce que ça a été un projet d'envergure pendant 5 ans. Mais effectivement, comme tu dis, je suis en résidence en Finlande dans un autre univers culturel. Je peux pas faire autrement que d'être complètement fascinée par le fait que je suis dans un autre univers culturel. Puis ce qui me vient, évidemment, c'est des réflexions anthropologiques aussi. Mais c'est ça, je pense que de moins en moins, je vais dissocier les deux et comme tenter d'intégrer les deux univers. Ben, je peux peut-être parler du projet que je fais maintenant, qui est un livre. Ben, c'est ça que j'ai appelé Lac Noir. Puis, ce qui est assez particulier, c'est que j'ai trouvé la ligne directrice de ce livre-là au moment où j'ai découvert, quand j'étais au mois d'août dernier, quand j'étais à Lapua, en Finlande, j'ai eu accès aux archives du musée de la photo de Lapua. Donc, le directeur du musée m'a dit, ben, si tu as envie de fouiller dans nos archives pour tes projets, vas-y. Puis moi, j'aime bien les vieilles photos, mais tu sais, j'ai jamais vraiment. Je ne m'étais jamais vraiment plongée dans des archives et tout ça. Sauf que là, j'ai trouvé des photos qui m'ont t'sais, vraiment bouleversée. J'ai trouvé une série de photos qui sont des plaques photographiques anonymes et non datées. Donc, on pense que c'est des photos qui auraient été prises au début 1900, mais on n'a pas exactement les dates. Et c'est des portraits. Il y avait un studio de photographie dans dans un village, donc vraiment milieu rural. Mais c'est des portraits qui ont été abîmés par l'eau et la moisissure. Donc, ça crée des formes abstraites sur les visages, qui effacent des parties de visage et qui créent là, des formes un peu comme des nuages ou de la fumée. Et pour moi, c'était comme vraiment, j'ai vu ces photos-là qui évidemment appartiennent à un autre contexte culturel que le mien, une autre période historique. Mais le fait qu'elles étaient abîmées, anonymes, perdues dans ces archives, et aussi le directeur du musée qui me dit c'est du matériel qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas montrer, il n'y a rien à faire avec ça. Moi, ça m'a tellement troublée et j'ai eu envie de me les approprier pour mon livre. Donc là, j'ai les droits pour pouvoir les utiliser dans mon livre. Donc présentement, j'écris des poèmes. En fait, j'écris tout un livre autour de ces photos-là. Et c'est drôle parce que c'est du matériel réel, c'est des vraies archives. Mais moi, je l'utilise comme métaphore, tu sais, de comment on oublie les visages des gens qui nous ont quittés. C'est un livre sur le deuil, c'est comment on se remet de la perte des gens. Donc, et je m'approprie ces portraits-là comme s'ils étaient de ma propre lignée, tu sais, de mes propres deuils à moi.
Je pense qu'on entend vraiment bien le mélange entre ton cerveau chercheuse puis ton cerveau poète qui ont progressivement fusionné, là, ce qui est le désir aussi. Moi aussi, mon désir, c'est de moins dissocier toutes les parties de mon cerveau. Parce que en t'écoutant, je pense au fait que ton doctorat est quand même lié à la fois à. Ben oui, une démarche anthropologique très sérieuse et très documentée, mais aussi à ton histoire personnelle. Puis là, je trouve ça intéressant de retrouver encore ces deux fils-là qui se touchent dans les projets que tu fais actuellement. Donc, pour les gens qui n'ont pas lu ta thèse de doctorat, qui était déposée donc au département d'anthropologie et de sociologie de Concordia,
C'est ça.
En 2022, et qui s'appelle, je veux lire le titre parce qu'il est très beau, c'est Le reflet du monde est à l'intérieur de moi, une ethnographie poétique de l'expérience de l'agoraphobie en Norvège. Donc, qui est comme, qui dit quand même un peu c'est quoi. Peux-tu nous ramener au début de ce projet-là, puis au processus un petit peu que ça a impliqué?
Oui, puis en fait, oui, merci de me ramener, mais aussi, je peux peut-être préciser, tu sais, j'ai comme eu une vie, tu sais, où j'ai travaillé pendant 14 ans en recherche, à faire de la recherche, tu sais, en santé publique sur des enjeux super politiques, d'inégalités sociales, de santé, tu sais, faire toutes sortes de recherches vraiment, là, dans un contexte là, scientifique et politique.
Pour
Et
l'université, ça, ou pour le
non, j'ai
à
travaillé
la fonction publique?
oui, dans la fonction publique, mais aussi pour des groupes de recherche et plein de différents sujets liés assez proches toujours en santé mentale ou sur les inégalités sociales de santé. Donc, qui est un sujet qui me fascine, puis je fais encore parfois des contrats comme ça. J'ai fait un contrat l'année dernière pour un rapport de santé publique. Donc, j'ai cette partie-là dans ma vie. Puis mon doctorat, en fait, j'ai fait ma maîtrise aussi sur l'agoraphobie. Donc, c'était en 2004 et je m'intéressais aux groupes de discussion sur Internet de personnes agoraphobes. Donc, je m'intéressais à comment ils discutaient entre elles, comment ces personnes-là discutaient entre elles de leur maladie, tout en étant dans des espaces géographiques différents, dans des cultures différentes. Et puis là, j'ai décidé de. En fait, c'est un sujet qui me fascine parce que je l'ai vécu moi-même, là. Quand j'étais adolescente, j'étais agoraphobe pendant plusieurs années. Donc, j'ai toujours voulu comprendre à la fois la théorie qui est écrite sur cette expérience-là, mais aussi rencontrer des gens dans différents contextes culturels et comprendre, essayer de comprendre c'est quoi leur expérience, puis évidemment aussi comprendre ma propre expérience et convoquer ma propre expérience de ça dans mes travaux. Donc, ma thèse, en fait, tu as nommé le titre, donc maintenant on sait que je suis allée en Norvège faire cette recherche-là. L'idée, c'était, en fait, je voulais me poser la question de l'influence de la culture sur un trouble anxieux comme l'agoraphobie. Donc, savoir qu'est-ce qui de la culture peut venir influencer la manière dont on vit cette expérience-là en particulier. Et pourquoi j'ai choisi la Norvège? C'est parce que c'est l'endroit en Europe où il y a le plus de cas diagnostiqués. Puis, en fait, je pense qu'on pourrait même dire que c'est peut-être l'endroit dans le monde où il y a le plus de cas. Donc, je me suis demandé qu'il y a de particulier en Norvège, dans la culture, dans ces sociétés-là, qui fait que ça s'exprime plus dans ce pays-là. Donc, c'était vraiment ma question de recherche de base. Et c'est ça. Donc, je suis allée pendant 8 mois en Norvège pour aller rencontrer des agoraphobes. Je vais peut-être préciser c'est quoi l'agoraphobie.
Oui, j'aimerais ça parce que j'allais te demander si... c'est peut-être une question qui n'est pas correcte, mais comme j'ai eu une tumeur, je me permets de me poser des questions pas correctes. Est-ce que tu as l'impression aussi, puis ça va être lié à la définition de l'agoraphobie, as-tu l'impression que ça peut être une force, toi, dans ton travail, d'avoir... Je sais que c'est pas une force, là, la maladie mentale, l'anxiété, mais comme tu dis, ça fait voir le monde d'une certaine manière. As-tu l'impression que les traces de ça peuvent être en fait très belles et très intéressantes chez certaines personnes, dont toi?
Oui, bien en fait, oui, tout à fait. Puis pour moi, c'est une question tout à fait correcte, là. Je pense qu'il faut qu'on pose des questions, même si c'est maladroit, sur la maladie. Je pense que ça nous connecte dans notre expérience humaine. On vit tous des enjeux de santé mentale et de santé physique à différents moments de notre vie. En fait... Oui, mais l'agoraphobie, juste pour en deux mots, là, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est un trouble de l'anxiété. C'est en fait des crises de panique qui vont se manifester. T'sais, au début d'un trouble d'agoraphobie, ça se manifeste de plus en plus. Puis les gens vont se mettre à éviter des situations où ils vont avoir des crises de panique. Donc, il y a des gens qui vont éviter seulement certaines situations, mais dans les cas, disons, plus graves, les gens vont peu à peu s'isoler à la maison et plus vouloir sortir de la maison. Donc, ce qui, moi, m'est arrivé quand j'avais 14 ans, donc pendant 2 ans environ, je suis presque pas sortie de chez moi. Et c'est ça. Et oui, effectivement, je pense que la conclusion de mes recherches sur ça, c'est que l'anxiété, pour moi, dans ma manière de le comprendre maintenant, c'est beaucoup plus une force. Je le vois comme, en fait, une hypersensibilité. En fait, les agoraphobes que j'ai rencontrés, j'avais l'impression qu'on partageait une tellement grande sensibilité à tout ce qui est émotionnel, mais aussi tout ce qui est sensoriel, c'est-à-dire qu'on est tellement conscient des atmosphères et du monde extérieur que, évidemment, il nous affecte de manière beaucoup plus forte. Donc, et cela nous rend des fois complètement... En fait, on devient incapable de fonctionner parce qu'on ressent trop le monde. Et pour moi, c'est une immense force, un pouvoir. C'est une façon de voir le monde d'une manière différente. Mais effectivement, dans notre monde de productivité capitaliste, c'est un trouble qui peut nous empêcher d'avancer puis de fonctionner. Mais, puis, je veux aussi dire, c'est extrêmement souffrant. Hein. C'est pas un trouble je pense que si on demande aux agoraphobes s'ils veulent garder leur super pouvoir, la plupart ne veulent pas le garder puis voudraient ne pas faire des crises de panique de manière récurrente. Mais je pense que cette sensibilité-là, quand on réussit à la dompter, elle nous ouvre une vision sur le monde qu'on a que peut-être la moyenne des ours n'a pas. Là. Donc,
c'est ça. Je sors un peu de ta thèse parce que je trouve que ça fait écho à ton recueil « Les couleurs accidentelles », mais moi, il y a un passage qui m'a beaucoup marquée. Puis, c'est drôle, c'est pas un passage complexe, mais c'est la mise en relation entre la notion de choses puis les monstres. Puis tu dis, c'est quoi ma relation avec les choses? C'est quoi ma relation avec les monstres? Mais là, tu dis, le livre dit ça. Puis c'est drôle, en t'écoutant, je me suis demandé si, tu sais, dans l'agoraphobie, dans cette hypersensibilité-là, il n'y avait pas un lien, justement, entre environnement, choses et monstres. Parce que, bien sûr, l'agoraphobie, c'est souffrant et le monde est difficile et notre rapport aux choses est complexe et souvent douloureux aussi. Mais je me demandais si tu voyais un lien entre justement ces monstres-là qui sont un thème récurrent à la fois dans les couleurs accidentelles et dans le recueil précédent clinique. Puis je ne sais pas si ça continue d'habiter ton travail, mais il y a quelque chose avec les monstres qui est là puis qui sont comme toujours un peu présents dans les environnements que traverse la locutrice des poèmes. Là.
Je veux dire, dans mon expérience personnelle, je suis quelqu'un qui est régulièrement terrorisé. Là, tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un qui a peur d'énormément de choses, puis je m'invente énormément de monstres. Donc, oui, c'est clair que c'est présent dans mes livres. J'essaie souvent d'expliquer que pour moi, le monde, c'est comme une jungle où il y a des dangers partout. Tu sais, j'ai cette impression depuis que je suis née que je dois, tu sais, à chaque fois que je sors dans la rue, tu sais, j'ai appris à me calmer, là, mais j'ai ce sentiment que le monde n'est pas sécuritaire pour moi. Et ça va toujours m'habiter. Donc, c'est clair que dans ce que j'écris, il y a plusieurs figures comme ça que je fictionnalise puis qui deviennent que j'essaie de dompter, en fait, je pense, aussi dans mes livres.
Puis ton rapport à la correspondance est aussi lié à ça, je pense. T'es quelqu'un tu fais des ateliers de cartes postales, t'entretiens des correspondances. Je pense qu'on a vu une partie de votre correspondance entre toi et Marie-André Gill, qui est une amie à toi. Je pense que t'entretiens beaucoup de correspondances comme ça. Puis même dans tes livres, la forme de la correspondance apparaît à plusieurs moments. Et donc, je pense qu'il y a aussi ce rapport-là entre, tu sais, de l'intérieur vers l'extérieur. Comment est-ce qu'on entre en relation avec les autres? Comment est-ce qu'il y a d'autres chemins, en fait, qu'on trouve pour parler, même parler beaucoup aux autres?
Oui, puis en fait, c'est ça, tu m'avais envoyé des questions juste avant, puis je pense qu'il y en a une qui était « Quelles sont les expériences là, qui ont comme un peu...
mené à la création. »
Oui, c'est ça. Puis en fait, j'adorais la question parce qu'elle était super vaste, puis en même temps, ça permet de choisir. Puis je me suis dit « Ah oui, c'est ça. » En fait, c'est que moi, ce qui s'est passé dans ma vie par rapport à l'écriture, c'est que quand j'étais agoraphobe, donc j'étais enfermée chez moi à 14 ans, et tu sais, je ne voyais plus mes amis, j'étais toute seule chez moi avec ma mère et mon frère, et je me suis mise à écrire des lettres, mais à écrire des lettres de manière compulsive. Là. J'avais 30 correspondants partout dans le monde, en fait, dans 30 pays différents. Et puis, j'écrivais des lettres chaque jour, des fois plusieurs lettres par jour. Puis, cette correspondance-là, elle a été fondamentale dans ma vie parce que, d'une part, elle m'a ouvert sur le monde puis de manière intime sur le monde, parce que quand on écrit des lettres, on peut écrire des choses intimes. Donc, avec ce désir-là d'être anthropologue puis d'en connaître toujours plus sur la différence culturelle et tout ça. Et puis, visiter le monde, avoir ce grand désir d'exploration. Mais aussi, ce que j'ai compris dans cette expérience-là, c'était le pouvoir de l'écriture. C'était à quel point ça me connectait avec les autres. Et même si j'étais toute seule chez moi, je pouvais être connectée par l'écriture. Puis je pense que c'est ma manière dont j'ai appris à socialiser aussi, parce que justement, j'étais dans cet isolement-là social. Donc, pour moi, c'est clair que les lettres, la correspondance, c'est probablement ma pratique d'écriture principale. C'est ce que j'écris le plus, tu sais. Donc, oui, c'est là.
Mais là, je change un peu de sujet, sauf que... Puis je suis pas du tout mais les questions que je t'ai envoyées, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, mon cerveau.
Non, non, c'est vraiment
intéressant. Il y a une scène dans Les couleurs accidentelles, je pense, où est-ce que tu racontes comment ta mère s'est fait démonter par un prof, je crois que c'est à l'Université de Montréal, en littérature. C'est une scène que je crois que pour les gens qui ont étudié en littérature, ce ne sera pas du tout surprenante. Je me demandais, t'en étais où dans ta réflexion par rapport à ça? Parce qu'on sent très bien quand tu racontes cette scène-là dans le livre que c'est quelque chose que tu as peut-être vécu toi aussi à un certain point, que c'est c'est pas seulement de l'époque de ta mère, là, t'sais, que c'est quelque chose qui se continue dans le temps. Comment ça évolue ta réflexion sur ça?
Ouais. Ben, en fait, peut-être que je peux raconter la scène. C'est ça, c'est que... Puis c'est évidemment, c'est une histoire vraie. Ma mère étudiait en littérature, puis elle était à la maîtrise, puis elle essayait d'écrire un roman sur la folie des femmes. Elle avait fait études féministes à l'UQAM dans les années 80 et 90, et elle essayait d'écrire un roman avec toute la difficulté que c'est quand c'est nos premières ébauches de textes, puis qu'on les montre à des gens savants en position de pouvoir dans l'édifice universitaire. Puis le professeur en question a simplement déchiré le premier jet que ma mère avait fait du roman en lui disant que c'était nul, puis qu'elle devrait arrêter d'écrire. Donc, d'une scène d'une violence épouvantable qui, probablement pour ce prof-là, était juste un peu à la limite comique, et puis il fallait qu'elle s'endurcisse, mais qui, pour ma mère, a eu des conséquences catastrophiques parce qu'elle a arrêté d'écrire, arrêté sa maîtrise. Puis,
bien sûr.
Ça l'a brisé. Puis c'est sûr que moi, ben, je porte cette histoire-là. Fait que moi, d'écrire... de publier des livres, c'est sûr qu'il y a une part de ce poids-là que je porte, tu sais, de revanche. Il y a aussi, je pense, dans ma vie, j'ai toujours eu une énorme méfiance pour les départements d'études littéraires. J'ai jamais étudié en littérature. Puis les fois où j'ai pris des cours en études littéraires, j'étais dans un état de rage et de colère. Et je déteste, c'est ça, j'ai toujours détesté ça, j'ai toujours détesté la posture enfin, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est juste, pour moi, c'est vraiment un sujet sensible. Mais en même temps, tu sais, j'ai grandi avec cet héritage-là de ma mère où on avait des tonnes de livres à la maison. Les éditions du remue-ménage des années 80-90, ça traînait sur la table de la cuisine. Donc, j'ai eu accès à tout ça, tu sais. Donc, puis accès aussi à ce discours-là que c'était important d'écrire, qu'il fallait écrire. Mais, tu sais, je pense que tu l'as peut-être senti, mais tu sais, dans mon premier recueil clinique, qui est le premier livre que j'ai publié, il y a cette idée-là de... à quel point c'est difficile de parler, d'émettre le poème, là, tu sais, parce que parce que c'est on va se faire le danger est là, le monstre est là. Donc, oui, c'est très, très, très présent dans ma démarche. Puis c'est toujours difficile d'écrire, tu sais. C'est toujours difficile à cause de ça. C'est que...
Mais c'est intéressant dans ton travail parce que les deux, tu sais, je pense que tu nommes beaucoup la difficulté d'écrire ou de parler, mais il y a aussi une soif, un peu comme le rapport entre vie intérieure, tu sais, pas vie intérieure au sens de vie psychologique intérieure, mais littéralement, tu sais, l'intérieur de la maison versus l'extérieur. Dans ton travail, on sent difficulté de parler, mais aussi tant de choses à dire. T'sais. C'est pas comme. Il y a comme une. J'aime beaucoup les paradoxes comme ça dans ton écriture, là, de ça va être difficile de parler, mais en fait, j'ai plein de choses que je voudrais vous dire. T'sais. Ton rapport à l'institution, donc, tu parlais d'une méfiance par rapport au département d'études littéraires, mais si je reviens à la date de publication de Clinique, je crois que c'est 2016, ton premier recueil. Il y a quand même, y a quand même un bon. Une bonne durée là, qui nous sépare de ce moment-là. As-tu l'impression aujourd'hui que tu es dans le même rapport avec l'institution littéraire ou tu as l'impression qu'elle change suffisamment pour que ton regard se transforme un peu, que tes relations changent un petit peu avec ce monde-là? As-tu l'impression que l'espèce de mépris qu'il y a dans cette scène-là, qui est extrêmement violente avec ta mère, il se défait ou
Oui, bien
il se
sûr.
tasse?
Oui, puis en fait, c'est clair que tu sais, je l'ai fictionalisé dans ce premier livre-là, j'ai fictionalisé une scène, mais ça correspond pas à moi, mon rapport quotidien avec ben, cette institution-là, universitaire, mais aussi tout le milieu littéraire qui est composé de, tu sais, de 6 000 couches différentes de gens qui viennent de tellement de parcours tellement différents et tout ça. Donc, non, je me sens pas continuellement dans un combat, mais je pense qu'il y a il y a quand même des logiques, tu sais, il y a quand même une espèce de structure de pouvoir qui est là, puis des inégalités, puis des jeux de pouvoir qui sont là, qui sont quand même intenses. Moi, je me sens pas. Ben, je me suis toujours sentie un peu, disons, en marge du milieu, dans le sens où probablement parce que j'ai pas étudié, tu sais, en littérature, puis parce que aussi moi, dans ma façon, tu sais, dans ma sociabilité, puis dans ma façon de m'intégrer socialement, je suis toujours un peu en marge. Donc, c'est ça. Mais c'est pas lié à, tu sais. Des événements violents en particulier ou tout ça, là.
J'ai envie qu'on revienne un petit peu au lac noir. Dans le fond, tu m'as envoyé, j'essaie de retrouver le document, tu m'as envoyé les photos dont tu parlais. J'avais pas compris en fait ce que c'était très précisément. Puis là, plus tôt dans notre discussion, tu l'as littéralement décrit. Mais moi, au début, je pensais que c'était une double exposition, comme un portrait, puis qu'ensuite, quelqu'un avait exposé un paysage, tu sais, sur le même négatif ou le même, enfin. Puis là, tu as bien décrit que c'est en fait de la moisissure
Oui.
que je vois. Puis c'est ça, tu m'as envoyé deux images. La première, c'est comme un paysage enneigé avec, au loin, on voit une espèce de ligne d'horizon avec des arbres, puis la neige, puis est-ce que c'est un train ou qu'est-ce que c'est le...
C'est un chemin de fer.
Ah, c'est ça, c'est un
C'est
chemin de fer.
un chemin de fer. C'est un chemin de fer qui se perd dans la neige.
C'est ça.
C'est ça. Puis l'autre photo, c'est ça, c'est les portraits dont, avec lesquels je travaille présentement, qui sont, en fait, ce que j'aime, c'est qu'il y a des parties de la photo qui sont extrêmement claires, comme dans celle que je t'ai envoyée, on voit très bien les mains de cette femme. Donc, on peut vraiment se souvenir de ses mains, mais sa tête est complètement dans un nuage noir. Qui a été créé par de la moisissure puis de l'eau. Donc, j'adore le fait aussi que de manière matérielle, c'est comme si le monde a comme avalé sa tête. C'est comme le phénomène naturel de moisissure et d'eau qui a fait que sa tête a disparu. Donc, dans nos souvenirs, on peut se souvenir très clairement de ses mains, mais pas nécessairement de son visage. Donc, c'est
oui, oui, ça reproduit l'effet de... Puis, comment est-ce que ces images-là sont connectées à ton travail autour du lac noir qui est inspiré aussi de ta propre histoire familiale? Donc, comment tout ça tisse un fil?
C'est ça. Ben, en fait, dans le livre que je suis en train d'écrire, là, il y a comme le personnage de ma grand-mère qui est née à Black Lake. Ben, c'est ça, j'ai fictionalisé qu'en fait, ma grand-mère, elle est dans le lac. Donc, elle est dans le fond du lac. Et moi, je la regarde à la surface, mais je perds son image, un peu comme cette photo-là. Donc, mais on peut... peut-être, je pourrais dire qu'on correspond, vu que tu me dis à quel point les correspondances sont... Sont présentes dans mon œuvre, mais en fait, elle me parle. Donc, on a un dialogue ensemble sur mes deuils, en fait. Donc, ben, je parle au jeu, là, c'est la narratrice du livre. Mais, donc, c'est vraiment un livre où je fais des deuils de portraits de personnes que j'ai aimées et que j'ai perdues. Je perds peu à peu leur image et en fait aussi je visite différents lacs dans ce livre-là et donc c'est ça et puis c'est un jeu entre la neige et le lac noir, donc la neige et l'eau noire, donc il y a cette espèce de dichotomie. Le livre s'ouvre en fait puis je cours dans la neige. Puis, en courant dans la neige, je vois à la surface soudainement le lac noir. Donc, il y a tout ce jeu-là de noir et blanc. Et
oui,
avec, puis sur le plan de la forme, mais là, je me suis vraiment amusée à mettre des mots en gris, donc des mots qui peu à peu s'effacent dans ou fondent ou s'effacent dans cette eau noire. Donc, c'est ça. Donc, je joue sur ça. Tu sais, je pense que tu as compris à quel point, pour moi, c'est important qu'il y ait une matérialité de l'écriture. Donc, qu'il y ait vraiment un jeu dans la manière dont physiquement les mots sont... En fait, graphiquement, comment les mots sont placés sur la page, comment ils vont s'effacer, comment ils vont... où ils vont être plus gros ou plus évidents. Donc, c'est ça. J'ai joué avec les couleurs en mettant des mots en couleur dans les couleurs accidentelles, mais là, je suis vraiment dans une esthétique en noir et blanc avec ces photos-là d'archives qui sont en noir et blanc. Puis là, je joue avec ben, du noir au gris.
Puis le livre a l'air... assez abouti quand même, t'en parles,
ouais.
Puis tu sais, est-ce qu'il est fini?
Non, il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Mais il est là, tu sais, comme, il y a un moment où il est vraiment là. Là.
C'est ça, il est pas, c'est pas un début de processus, là, t'as quand même...
Non, c'est ça, puis ça fait longtemps que je travaille là-dessus, puis c'est comme si, tu sais, depuis cet automne, là, tout a pris sa forme, puis tu sais, je vois la structure, puis tout ça, donc... Donc, je sais pas quand je vais finir, mais c'est toujours difficile de dire quand c'est fini, là, mais là, il existe pour vrai.
Puis, je t'avais demandé si tu accepterais de lire un extrait.
Oui, j'ai envie de lire un extrait, mais en fait, j'ai choisi... ah oui, puis c'est ça, mais je peux peut-être aussi dire sur la forme, parce que moi, j'aime ça, la forme. J'ai choisi pour ce livre-là, mais là, il n'est pas fini. Ça se pourrait que ça change, puis il y a tout le processus d'édition. Mais pour l'instant, comment je le construis, c'est que j'ai décidé de faire des poèmes avec une contrainte. C'est que tous mes poèmes ont 6 lignes. Tu sais, je me suis comme vraiment enfermée dans une espèce de structure. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne comme ça. Peut-être pour avoir une espèce de format... qui correspond au format d'une photo. Tu sais, je pense que c'est ça un peu l'idée que j'ai, esthétique. Donc, c'est ça. Donc, chaque page a comme c'est en vert. J'ai aussi décidé que ça soit en vert. Chaque page a 6 lignes. C'est ça. Donc là, je vais vous lire en fait 4 pages de 6 lignes, mais je n'ai pas choisi les pages dans l'ordre, fait que c'est comme un peu décousu entre les poèmes. Donc, je vous lis ça. C'est janvier, il est 7h27. J'enjambe un kilomètre ou deux pour éclaircir le jour. Sur l'asphalte enneigé, mes bonds font des crépitements, dans la poudreuse mêlée de filaments gelés. Le ciel m'enveloppe d'une lumière polaire de nuit. Je cours et je vois mon lac noir sous la surface. Dans le lac, il y a ma grand-mère, née à Black Lake en 1920. Elle nage avec son foulard brodé. Elle s'étend parfois sur les catalogues multicolores qu'elle a tissés. Quand je l'aperçois dans un courant, l'eau monte dans ma gorge. Je cherche sa main poudrée entre les algues et la neige, à la lueur du lampadaire. Puis le matin, il y a eu un maelstrom dans son verre de fort. Il y a eu des cris, il y a eu une bataille, il y a eu un visage isolé, il y a eu ses yeux hurlants soudainement projectiles, il y a eu moi, immobile, dans un lit, préparant les détails de ma fuite, il y a eu l'empreinte calme de mon visage sur les fibres de mes joues transpercées de terreur. Au lac de la nuit, ma grand-mère me voyait. Ma rose pique-aiguille, n'oublie pas que ton cœur est brodé de varech, ne te perds pas dans tes fumées violettes. Je cherchais ses yeux sous les glaces, entre les bouleaux gorgés de verglas, il faisait noir, ici même si c'était le jour.
Merci Roselyne, c'est très beau. C'est drôle, J'avais oublié la place des tissus, des écharpes, des foulards dans tes textes. Puis là, en t'écoutant, ça me revient. Puis ça me revient d'autant plus qu'on a parlé de moutons.
C'est drôle parce que ça m'habite vraiment présentement. J'ai commencé à travailler beaucoup plus avec le textile dans mon écriture. C'est vraiment particulier. En fait, j'ai toujours tricoté, mais je te dirais que depuis 10 ans, là, je tricote vraiment de manière quasi scientifique. Là. J'étudie là, les traditions, les motifs. À chaque fois que je voyage, je visite là, des artisanes, des moulins à laine. C'est vraiment En fait, je m'intéresse beaucoup aux arts textiles parce que c'est un art qui est principalement fait par les femmes et qui est très dévalorisé, alors que c'est d'une complexité. Il faut, tu sais, pour être capable de faire de la dentelle, de la broderie, puis même du tricot là, de manière avancée, ça prend énormément d'expérience et de connaissances. Mais c'est comme tous les artisanats, là, c'est un peu considéré comme quelque chose de... C'est très dévalorisé parce que c'était vu comme un art ménager. Donc, pour moi, c'est très lié à ma lutte féministe là, de revaloriser les traditions textiles. Mais en même temps, tu sais, j'ai... Encore là, c'est vraiment une très grande passion que j'ai dans ma vie. Je m'intéresse au type de laine puis aux différentes espèces de moutons, tout ça. Mais j'avais de la misère à le lier à l'écriture, là, comment faire pour que ça puisse s'intégrer. Puis là, quand j'étais en Lituanie, j'ai eu un flash, puis ça m'a comme happée. Je me souviens exactement quand j'ai eu ce flash-là, j'étais comme dans le bois avec mon troupeau de moutons. Puis là, j'ai compris ce que je voulais faire, en fait. Là, j'ai envie d'écrire des livres avec de la laine. Donc, j'ai commencé mes expérimentations et c'est drôle parce que je me suis jamais vue comme une artiste visuelle, même si je fais de la poésie super graphique, puis que j'ai jamais reconnu cet espace-là que prend l'art visuel dans ma vie. Mais là, je me suis mis à réaliser que tout le travail que je fais avec mes mains, je suis continuellement en train de créer des choses avec mes mains. Et c'est pour moi, la poésie aussi, c'est un travail très artisanal. J'aime beaucoup écrire à la main, je mets des couleurs. Tu sais, je suis toujours en train de travailler quelque chose de très matériel et visuel. Et là, avec les moutons, j'étais dans le bois et là, j'ai compris vraiment ce que je voulais faire. Puis, j'étais dans un contexte où c'était des artistes visuels qui nous invitaient en résidence et ils nous invitaient à faire une exposition à la fin de la résidence. Puis moi, évidemment, en arrivant, je dis « Non, non, mais moi, je ne suis pas une artiste visuelle, là, j'ai rien à exposer. » Ou peut-être je peux vous faire là, des petits zines, là, mais ça va être vraiment quelque chose de minimal. » Mais j'arrêtais pas de jouer avec plein de matières. Puis tu sais, là-bas, j'avais un atelier, puis tout ça. Et là, je me suis mis à expérimenter comment faire des pages blanches avec de la toison de mouton. Donc, j'ai fait des grands rectangles en toison blanche et j'ai pris la laine des moutons noirs pour faire les lettres, en fait. Et là, je me suis mis à expérimenter pour écrire comme si j'écrivais à la main, mais avec la laine, mais sans rien coudre, tricoter ou feutrer. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose de très aéré, très aérien. Et mes premières expérimentations étaient comme vraiment nulles, ça ne marchait pas. Puis là, finalement, tu sais, en travaillant à chaque jour, en essayant des trucs, j'ai trouvé la bonne technique pour vraiment être capable d'écrire, tu sais, de former des lettres avec la laine, mais qui n'est pas filée, là. Donc, on est vraiment dans de la toison très aérée. Et donc, avec de l'eau chaude, là, j'arrive à former mes lettres puis à les fixer en mettant des poids sur les lettres. Et j'ai écrit un poème avec les moutons, parce que j'étais en dialogue avec eux tous les jours. Et je l'ai traduit en français, anglais et lituanien. Et dans l'espace d'exposition, ben, j'ai exposé mes pages de laine sur le sol, donc directement au sol, comme si on était dans un champ qu'on se promenait, puis que là, soudainement, on pouvait lire des pages blanches avec des lettres noires. Donc, le poème se retrouvait sur le sol de l'espace de la galerie. Donc, j'ai adoré ça. Et là, je suis obsédée par cette idée-là. Là, j'ai comme envie de... J'aimerais avoir un grand espace d'exposition au sol où je pourrais écrire un livre en laine. Ici, j'ai rencontré des artistes textiles en Finlande qui m'ont donné de la laine aussi. Donc là, je suis en train de récolter différentes toisons de différents endroits, de différents moutons avec qui j'ai des connexions particulières. Je voudrais créer cet espace. C'est vraiment, tu sais, faire de la poésie, mais en faire une exposition avec la laine. Donc, là, je me rends compte, OK, il faut que je centre là, mon travail beaucoup plus sur le travail de mes mains.
Ça me permet aussi de faire un lien avec peut-être la dimension féministe de ton travail. Je voulais juste lire le début de Le manuel du saucisseur. C'est dans Ce qu'un jeune mari devrait savoir, qui est un collectif qui est paru au Marchand de feuilles. Vous êtes un homme du milieu littéraire et vous pensez que vous avez autant de talent pour ciseler vos vers que pour désosser du petit gibier? Lors d'un prochain lancement, avant de pousser la porte de la librairie en vous écriant chaud devant avec votre saucisse cocktail au garde-à-vous, testez cet assortiment de règles culinaires que nous vous servons sur un plateau d'argent. On te connaît comme poète, mais là, dans ce texte-là, ce que j'ai aimé, c'est que c'est comme une autre persona de toi qui est très comique, puis très... c'est cinglant comme texte. Est-ce que ça te fait du bien?
Oui! Tellement. Oui, c'est vraiment une prise là, de pouvoir là, qui m'a fait énormément de bien. Mais ça a été tellement dur à écrire. C'est incroyable. Oui, en fait, j'ai réalisé que écrire de l'humour, là, c'est tellement difficile. C'est probablement le texte que j'ai le plus travaillé, tu sais, au niveau du rythme, de trouver comme, tu sais, quand arrive le punch, que oui, il y a une métaphore, mais tu sais, il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est comme tout l'équilibre pour qu'un texte comme ça fonctionne. C'est tellement de travail. Et puis aussi de, tu sais, je l'ai beaucoup fait lire à plusieurs personnes avant de le publier, tu sais, pour comme, est-ce qu'il y a juste moi qui ris? Tu sais, c'est difficile dans l'humour de savoir, tu sais, c'est facile de se faire rire soi-même, mais c'est difficile de rejoindre un public plus large, disons. Donc, j'ai trouvé ça excessivement difficile. Mais en même temps, effectivement, tu peux t'en douter, c'était libérateur, surtout que, tu sais, tout ce que je nomme comme scène dans ce livre-là, c'est des choses réelles, tu sais. Puis, tu sais, c'est un texte qui a été écrit juste après la vague MeToo, là, dans le milieu littéraire, où, tu sais, j'ai eu accès à des tonnes, tu sais, de témoignages et d'histoires d'horreur, tu sais, de la part de, tu sais, toutes mes amis et collègues du milieu, là, tu sais, c'était un énorme mouvement collectif de témoignages. Puis, donc, tout ce qui se retrouve là, c'est vrai, et c'est hilarant, en fait, que tout ça se soit produit. C'est ça, en fait.
Ben, c'est la précision aussi de ce que tu racontes là-dedans qui est très efficace d'un point de vue comique, là, comme t'sais, utiliser des codes vestimentaires queer ou du maquillage va pas vous sauver si vous avez été un trou de cul pendant comme t'sais, les 10 dernières années. T'sais, ce genre de détails-là qui était très vrai là, juste après la vague MeToo durant la pandémie. C'est ça, tu mets le doigt sur des. C'est pas des choses vagues, c'est tu mets le doigt sur des réalités précises. Donc, je pense que c'est très comique. Mais si ça a été difficile, j'imagine que ça t'a peut-être pas donné envie d'en écrire d'autres, ou oui?
Et je le sais pas, en fait. J'avoue que, tu sais, je suis comme pas là. En fait, c'est que c'est tellement loin de moi, faire de l'humour. Puis là, la demande, en fait, c'était une magnifique invitation de Arizona O'Neill puis Mélanie Vincelette, tu sais, puis j'aimais comme l'idée, le projet. Puis en même temps, ils sont venus me chercher en me demandant si je voulais écrire de l'humour. Puis j'étais comme, mais pourquoi vous avez pensé à moi? Tu sais, j'ai jamais fait ça. J'étais comme, non, mais on pense que tu pourrais essayer. Puis j'étais comme, OK, essayons. Puis tu sais, en me disant, on verra bien si ça fonctionne. Puis, mais tu sais, je ne sais pas si je vais refaire ça, mais ce n'est pas un style qui me vient naturellement. Tu sais, c'est clair. Même si dans la vie, tu sais, je suis quelqu'un qui aime raconter pas des blagues, mais tu sais, qui est ironique, là. Tu sais, c'est comme
Mais
un ton.
j'allais dire, t'es très drôle. Moi, on s'écrit, puis t'es très drôle.
Oui, c'est ça, j'aime quand même ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme si c'est pas. Je suis comme étonnée, en fait, d'avoir écrit ce texte-là, parce que c'est tellement différent de ce que j'ai écrit d'autre. Puis, en fait, tu sais, ce que j'ai aimé, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est à quel point l'humour, ben, c'est à double tranchant, mais ça donne un pouvoir. Tu sais, c'est une parole qui est aussi une parole d'autorité. Tu sais, quand on rit de quelqu'un ou quelque chose, on se place en position de pouvoir. Puis là, c'était vraiment ce besoin-là que j'avais de m'affirmer, parce que, je veux dire, ça n'avait plus aucun sens, le nombre de violences puis de claques d'en face qu'on recevait, là. C'était comme, OK, faut qu'on parle, faut qu'on dise les choses, tu sais. Donc, il y avait cette idée-là un peu de prendre position, s'affirmer, puis d'avoir cette espèce de ton où on va vous montrer, tu sais, comme on va vous montrer comment faire. Je veux dire, vous êtes ridicule, tu sais. Donc, c'est ça.
C'est un texte que j'ai beaucoup aimé. Puis, ça, quand je l'ai lu, ça me, c'est un peu entré en écho avec ce que tu m'avais envoyé. Ça va être ma dernière question, mais je t'ai demandé de nous parler d'une artiste. Puis, tu m'as envoyé une vidéo. Donc, c'est une écrivaine finlandaise, si je ne me trompe pas. Je vais te laisser prononcer son nom, mais qui est à la fois musicienne et écrivaine. Puis tu m'as envoyé une vidéo, mais c'est genre du rock metal, c'est très libérateur là. C'est un peu le même feeling que le texte que tu as écrit là. Il y a quelque chose de très agressif dans sa musique.
Ah, je suis contente que tu associes ce texte-là en particulier avec elle parce que je n'y aurais pas du tout pensé. Oui, en fait, j'avais envie de te parler de Katia Kettu, qui est une écrivaine finlandaise, qui a le même âge que moi, elle a 44 ans. En fait, elle est traduite en français chez Actes Sud. Elle a deux romans qui sont traduits chez Actes Sud. Il y en a un qui s'appelle La Sage-Femme. L'autre, c'est Les Papillons de nuit. Les livres chez Actes Sud sont vraiment bons. Ils sont traduits par Sébastien Cagnoli, qui est aussi poète et qui a fait un travail formidable. C'est vraiment, en particulier La Sage-Femme, là, c'est un livre dont la beauté de l'écriture est époustouflante. Tu sais, c'est un roman, je pense, qui fait 400 pages, mais je pense que j'ai corné 100 pages, là. Tu sais, j'avais honte de le ramener à la bibliothèque. Puis, en fait, tu sais, je me concentre un peu sur la littérature finlandaise depuis un an et demi, là, parce que je suis venue à peu près 7 mois en Finlande depuis un an et demi. Puis j'essaie, quand je suis dans un pays, de me concentrer sur la littérature que je peux trouver là, en traduction. Et ce qui me fascine de cette écrivaine-là, c'est que elle est vraiment tu sais, dans une démarche féministe, mais comme dans La Sage-Femme, je crois que le personnage principal de ce roman-là, c'est le personnage, je pense, de toute ma vie. J'ai jamais vu un personnage de femme aussi fort en termes de capacité à survivre à une histoire, à une vie difficile, mais tout en étant vraiment, tu sais, de manière intrinsèque féminine. Et tout en étant complètement femme, c'est comme si le fait d'être femme renforce ce personnage-là. Je pense que j'ai jamais vu un personnage comme ça avant dans rien de ce que j'ai lu. C'est une femme qui vit en Arctique, qui est capable de survivre dans toutes les conditions climatiques. Puis c'est pas un enjeu que ce soit une femme pour sa survie. C'est pas ça qui fait qu'elle pourrait mourir au final. Puis ce qui me fascine, c'est qu'ici, en Finlande, c'est possible d'être une femme, une écrivaine. Elle a raflé tous les prix en Finlande avec ce roman-là, quand il a été publié ici en 2011. Puis c'est possible d'être vraiment adulée là, pour ton œuvre littéraire, mais d'être aussi une chanteuse punk le soir. Puis c'est ça que j'apprécie particulièrement en Finlande, c'est que pour beaucoup de femmes, c'est possible d'être vraiment dark ou d'être, disons, dans une espèce de féminité peut-être un peu différente de modèle dominant là, qu'on pourrait avoir au Québec, disons. Puis, en fait, j'ai discuté d'elle avec un poète qui habite ici à Rauma, qui me disait qu'il y avait vraiment un courant littéraire présentement des femmes du Nord, donc qui vivent, là, tu sais, on appelle ça le pays Sápmi, Sami. Anciennement, on appelait ça la Laponie. Donc des femmes qui vivent vraiment dans le cercle arctique, qui sont des écrivaines puis des artistes, puis qui sont capables de parler des sujets les plus difficiles, les plus violents, mais avec une esthétique d'une beauté époustouflante. Fait que moi, c'est en fait, présentement, il y a aussi Rosa Lixom, qui est une autre écrivaine qui est traduite chez Gallimard en français. Donc, elles sont vraiment une espèce de courant présentement qui, pour moi, m'inspire énormément.
Tu parles, puis j'ai l'impression que tu décris aussi la démarche qui mène à l'extrait qu'on a entendu plus tôt, que tu nous as partagé, l'espèce de dialogue, tu sais, sur fond de neige blanche, mais aussi d'obscurité très, très grande, tu sais, avec le lac, puis la figure de la morte vivante au fond du lac, là, qui est comme très obsédante. Roselyne, merci énormément pour ta générosité.
Ça me fait très plaisir.
Pour trouver toutes les informations sur le projet Terrain d'écriture et pour trouver les autres épisodes, rendez-vous sur la page Internet du CRILC, crilcq.org. Terrain d'écriture est lié à mon projet de postdoctorat qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. La série d'entretiens est rendue possible grâce à deux organismes, grâce au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, reconnu et financé par le FRQSC depuis 2003, et grâce au partenariat Littérature québécoise mobile, LQM, financé par le CRSH depuis 2019. La magnifique image du visuel est de l'artiste Camille Lamy. Un grand merci à Annie Tanguay et à Benoît Bordelot pour l'aide à la coordination du projet. L'enregistrement des entretiens est assuré par Ève Lemieux-Cloutier dans les studios de Choc à l'UQAM. Je m'appelle Charlotte Biron et je vous dis à très bientôt.